23.
Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette.
Salut à tous, notre émission Ça tient la route en compagnie d'Alain Mécanos. Salut Alain.
Monsieur Charrette, bonjour.
Alors cette semaine, on n'a pas d'invité cette semaine. On a essayé, là, puis pogner, réunion. Hey, des zooms, là. Y en a-tu des zooms?
Écoute, toutes les semaines, on n'a pas le temps. Fait que là, on va prendre le temps.
On va prendre le temps, mais à partir de la semaine prochaine, là, on va en avoir du monde. J'ai réglé ça pour les 7-8 prochaines semaines. La semaine prochaine, on a des gens de Porsche qui vont être avec nous pour nous parler de l'année Porsche 2021.
Pas n'importe qui, donc. Plus
le président de Porsche Canada. Canada, absolument. Et là, on est en train d'approcher le président de Jeep, mais pas le président de Jeep Canada, le président de Jeep.
Jeep, point. La marque mondiale.
La marque mondiale, Christian ouais. Meunier. On attend de ses nouvelles. Je lui ai envoyé un petit mot. Alors, on va avoir là, plein de gens. On a des gens de Subaru qui vont être là. On va avoir des gens d'Honda. Bon, on est en train de travailler sur Mazda, Ford. On va avoir plein de gens là, qui vont venir nous compter leur année. Mais aujourd'hui, évidemment, on va avoir nos actualités d'entrée de jeu. Puis, on va prendre le temps, parce qu'on a un peu aujourd'hui, de parler de Stellantis. Non, c'est pas un nouveau médicament.
Ben oui, c'est ça, pour... demander à votre docteur si Stellantis est bon pour vous.
C'est ça. Non, c'est la nouvelle union entre FCA, alors Fiat Chrysler Automobile, et PSA. C'est fait, c'est réglé, ça a été officialisé. Tout est... Donc, c'est encore une nouvelle union, parce que...
Ça leur fait un catalogue Chrysler, de marques assez impressionnant.
14 marques.
C'est fou.
C'est pas rien.
C'est le troisième plus gros constructeur au monde maintenant.
Quatrième, là. Troisième en argent, quatrième en import. C'est bon.
Troisième et demi.
Voilà. Okay. Mettons-le, troisième et demi. Et on va parler un peu plus en détail de ça, parce que Chrysler a traversé, disons, un certain nombre de crises depuis 40 ans.
Ah oui?
Et en tout cas, à date...
Mais qu'est-ce qui reste d'Américain dans ce groupe-là, c'est ça?
Rien. C'est pas compliqué. C'est il reste plus rien, là. C'est réglé.
En
fait,
non?
C'est la première fois en presque 100 ans que le nom Chrysler n'existe plus officiellement. Parce qu'on a eu Daimler Chrysler.
C'est vrai.
On a eu Fiat Chrysler Automobile, FCA. Puis là, c'est Stellantis.
C'est plus
qui
rien.
Est une union. Donc, le siège social, écoute, ça se partage entre la Hollande, Paris, Milan et Détroit. C'est Mike Manley qui est le président nord-américain du groupe.
Okay.
Mais là, bon, Carlos Tavares, qui est le président de PSA, qui demeure le grand patron,
a
promis qu'il n'allait pas avoir de fermeture d'usine, qu'il n'allait pas avoir de perte d'emploi, qu'on n'allait pas sacrifier de marque. On va parler de ça plus en détail tantôt.
Oui.
SR Routier, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Parce que tu as été dans les BMW, toi, cette semaine.
Oui, j'ai une paire d'hybrides, disons-le comme ça. J'ai ces deux véhicules hybrides, je veux dire, d'entrée de gamme chez BMW. La 330e, qui est la série 3, la berline, en hybride branchable. Et le X3 X-Drive 30E, qui est le petit VUS, dans le fond. Lui aussi branchable, ils ont le même moteur, ils ont à peu près la même...
C'est la même technologie qu'on retrouve sur le capot des deux.
Alors, la question que je vais poser, à laquelle je vais répondre aussi, ce qui est merveilleux, c'est ça vaut-tu vraiment la peine?
Moi, j'ai déjà ma réponse, mais je vais entendre ton explication.
Ouais.
Et on pourra débattre un peu là-dessus. Moi, je vais vous parler, du retour du Defender. Le Land Rover Defender, écoute, ça fait 2 ans qu'on attend ce véhicule-là. Là, il me semble que... Tu sais, j'avais quasiment plus de fun quand je l'ai vu parce que c'est comme t'as tellement attendu que...
Mais
toute une machine.
Ouais. Toute
une machine, c'est pas pour tout le monde, c'est assez particulier. Puis le Defender, ben dans l'histoire de Land Rover, c'est comme le roi de la montagne. Là. C'est le plus compétent des modèles compétents qui sont déjà chez Land Rover. Donc, on a des attentes élevées pour ce genre de bébête-là.
Le problème avec Land Rover, c'est que c'est une marque qui est bonne pour aller sur l'espace, sur la Lune, tellement que leurs véhicules sont comme costauds et tout le kit. Mais la plupart des gens qui achètent ça, ils restent en ville.
Et c'est là-dessus qu'on a travaillé.
Ça, j'ai hâte de voir
Tu lances un indice et ça va faire partie de l'asset. Donc ça va être au cours de l'émission. Et tout de suite, on va parler d'actualité. Alain, GM a allongé $1 milliard pour assembler les fameux... On avait parlé la semaine passée, les EV600, les modèles...
En fait, c'est le EV100, c'est le fourgon commercial de la nouvelle filiale qui s'appelle Bright Drop, en bon français. On dit GM, effectivement, mais c'est General Motors du Canada qui allonge $1 milliard et la nouvelle, elle est bonne. C'est une usine de GM à Ingersoll, en Ontario.
Une usine de Camis, où on faisait les Kinox.
Les Kinox, effectivement, puis qui roulait, on s'entend, à peu près à vide depuis 2017, me semble.
En tout cas, ça roulait pas à plein régime, c'est clair.
Là. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va créer là de nombreux nouveaux emplois qui étaient probablement là il y a comme 25 ans. Mais bon, ça fait un sacré revirement pour l'industrie automobile canadienne au total.
En très peu de temps, là.
Parce que le EV100, c'est un fourgon commercial tout nouveau qui n'existait pas, qui n'était même pas dans les plans il y a un an, qui a été comme dévoilé au CES, au Consumer Electronics Show, là, il y a à peu près 2 semaines. C'est un fourgon commercial 100% électrique qui va déjà fonctionner, déjà être mis en marché et sur la route avant la fin 2021.
Oui, c'est ce qui a été promis. Il y en a de vendus à FedEx.
Et FedEx va les prendre rapidement. Donc, c'est quelque chose de concret qui arrive. Au total, GM va annoncer qu'ils vont investir 2 milliards de dollars au Canada pour électrifier un paquet de bébelles.
Et ça, c'est en plus de l'argent qu'on a investi du côté de l'usine de Oshawa.
Oui, ben le 2 milliards inclut ça.
Ça
n'inclut pas ce que le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario ont investi de leur côté. Bref, ça fait beaucoup d'argent. Là, on se dit, bon, c'est bien, c'est l'Ontario, tout ça, mais il y a une bonne nouvelle à côté de ça, c'est qu'en s'approvisionnant auprès des fabricants de composants régionaux, ce que la plupart des usines font, GM pense qu'ils vont créer indirectement au Canada, incluant le Québec, quelque chose comme 10 000 nouveaux emplois.
C'est pas rien, ça.
Parce que là, si on parle pratiquement d'une nouvelle industrie, là. C'est des composants pour véhicules électriques.
Oui,
c'est plus des
et ce qui est encourageant, c'est ça. Ce qui est encourageant, c'est que c'est vraiment un pas dans l'avenir, là. Tu sais, c'est pas quelque chose, un modèle qu'on va fabriquer pour 2-3 ans puis qui va mourir de sa belle mort, puis on sait pas trop ce qui va arriver après, là.
Exact. C'est un sacré geste de la part de GM, faut le reconnaître quand même un peu. Et il y a un autre truc aussi. Je parlais avant Noël avec David Patterson, qui est le vice-président de GM du Canada. Il disait un truc, entre autres, lui, il est très content de la stratégie électrique du Québec parce que ça va devenir un partenaire avec nous, ce sera pas long, sur la R&D. Attendez pas à ce que GM vienne faire des voitures au Québec, là. C'est vraiment entièrement exclu de la question, là.
Non, mais on a un pas d'avance sur le reste du Canada au niveau de la recherche et développement dans tout ce qui concerne l'électricité.
Surtout les batteries.
C'est
ça qui fait, GM a ses propres fournisseurs là-dessus. C'est pas clair encore, mais au niveau de la R&D, il y a des ententes qui pourraient arriver. David Patterson me disait, j'ai parlé avec Pierre Fitzgibbon souvent au fil de la dernière année, qui est notre ministre de l'économie, qui est très monsieur business. En fait, il est très axé sur faire des affaires.
Il est issu du monde des affaires, hein?
Exactement. Donc, j'ai hâte de voir la suite, mais c'est un virage que GM mène et je pense que ça va stimuler un virage pour l'ensemble de l'industrie au Canada. Donc, c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble.
Et on reste chez GM parce que là, il y a une nouvelle union qui vient juste de... En fait, je pensais hier que ça s'est fait. Là, c'est très récent. Mm-hmm. Microsoft et GM vont travailler ensemble. En fait, on parle de Cruise, qui est une jeune pousse de GM là, sur les véhicules autonomes. Mm-hmm. Ça appartient à GM.
Ouais.
C'est comme une entité dans l'entité, appelons-la comme ça.
C'est bizarre parce qu'on pense à la Chevrolet Cruze, mais c'est pas du tout la même chose.
C'est vraiment
une filiale. Comme Waymo chez Google, là, ils sont destinés à développer des technologies de conduite autonome. La nouvelle, bon, là, nous, on en parle, donc tant mieux, mais je veux dire, elle va faire moins jaser au sens très large que la rumeur, il y a 2 semaines, qu'Apple allait avoir sa propre voiture électrique et autonome en 2024. Microsoft a peut-être un peu moins de rayonnement et de magnétisme par rapport à ça, mais... Microsoft est devenu le plus gros membre d'un groupe d'investisseurs. Ils ont remis 2 milliards de dollars américains dans la société Cruise. C'est une société qui a été SMée par General Motors et dans laquelle Honda est aussi partenaire.
Exact.
Ça en fait un des, je te dirais, 2 ou 3 gros groupes qui développent la voiture autonome aux États-Unis.
À date, Cruise a reçu d'un peu partout, là. On est presque à 30 milliards de reçus.
L'entreprise vaut 30 milliards, en fait.
Exact.
Donc, c'est quand même quelque chose. L'autre grosse entreprise, je le disais d'entrée de jeu, c'est Waymo, qui est une espèce de filiale qui appartient à Google. Eux, ils se situent dans une autre place parce qu'ils sont moins axés constructeurs automobiles. C'est plus juste le développement d'une entité à part. Cruise, donc, va utiliser l'infrastructure en nuage. On parle souvent de cloud en informatique, serveurs qui sont sur Internet, tout ça, pour asseoir sa plateforme de communication parce que les véhicules autonomes vont être des véhicules communicants aussi. Et ils vont utiliser la plateforme de Microsoft qui s'appelle Azure. Ça fait que, là, on a parlé du Apple Car tantôt. Apple, évidemment, veulent rentrer dans le secteur automobile. Là, il y a Microsoft qui vient de le faire. Il y a 2 semaines, on va en parler ici. Amazon avec BlackBerry sont en train d'entrer dans le marché. On parle d'auto, puis c'est le fun. Ça fait 20 ans que j'écris sur la techno. Puis là, tout d'un coup, je parle de la même chose dans les deux cas.
En fait, les deux mondes se sont rejoints, littéralement.
Je parlais il y a pas longtemps avec le PDG d'une compagnie de Québec qui s'appelle LeadarTech, qui font des leaders, entre autres, pour les conduites autonomes.
Dont on va parler à un moment donné à l'émission.
Ça serait le fun parce qu'ils sont dans le milieu de tout ça. Puis il dit, c'est sûr, on regarde le mouvement des entreprises dans tous les secteurs associés à la voiture autonome. Puis on a beau rire, on a beau trouver que ça va être compliqué, tout ça, mais ça s'en vient. Avant 2030, c'est sûr, on a des véhicules autonomes sur la route.
En fait, c'est qu'il faut trouver un terrain commun et il faut trouver une façon de fonctionner. Tu parlais des nuages tantôt. Bon, tous les véhicules, s'ils sont autonomes, devront se parler. Et c'est par des places comme Azure, qui est en fait, qui est le nuage qui va avoir toute cette communication-là, c'est par des procédés comme ça qu'on va pouvoir aller de l'avant et mettre tout ça en commun. Pour le moment, c'est une grosse bouchée à avaler, là. On peut le dire. Puis ça va se faire par étapes. On n'arrivera pas demain avec la voiture complètement autonome où tout va arrêter. Mais c'est par ces compagnies-là qu'on va y arriver, parce que c'est ces compagnies-là qui ont la technologie pour le faire.
Et je veux dire, et qui ont l'argent aussi.
Oui.
Microsoft, Apple, Google impriment à peu près littéralement de l'argent.
Alors, Microsoft, 2 milliards, là, ils ont trouvé ça dans le coin d'un tiroir.
C'est pas beaucoup pour eux. Mais donc, bref, écoute, d'ici 10 ans, ça va être, on le dit tout le temps, les ordinateurs sur roues. On parle de voitures de demain, ça s'en vient de plus en plus loin.
Ben, on le voit déjà. Tu sais, on réalise aujourd'hui là une voiture le moindrement technologique a plus de 20 ordinateurs à bord.
Ouais.
Là, c'est qu'on veut. En fait, moi, j'avais lu il y a quelques années, puis je trouve que c'est encore vrai. C'est un ingénieur qui travaillait pour des compagnies automobiles qui disait ça va se complexifier avant de se simplifier.
Oui.
Parce que là, on a les solutions. Pour le moment, on n'a pas encore la technologie qu'on aimerait avoir pour régler les solutions. Fait que c'est un peu plus compliqué.
Mm-hmm.
Mais va arriver un moment donné où on aura, avec l'avancée, avec le 5G, avec tout ce qui s'en vient, une solution qui va être intégrée, puis qu'on va dire, mon Dieu, c'est donc bien simple.
Oui, mais t'as raison, la 5G s'en vient. T'as raison, je dis raison, mais j'ai mélangé 5G.
Oui.
Effectivement, la 5G s'en vient. Et un des gros joueurs en 5G pour l'automobile, c'est Intel. Donc, il y en a un autre là, qui s'en vient dans l'automobile.
Exact.
Exactement.
Qui va sûrement avoir son mot à dire.
Conclusion, je pense pas qu'on va voir d'Apple Car en 2024. Personnellement, si j'avais à parier un petit 2$, là, c'est ce que je dirais, parce que ça s'en vient très, très vite. Mais je pense qu'on va voir des logos d'Apple, Microsoft, tout ça dans les voitures d'ici 5 ans.
Ah, c'est clair, puis ils vont se mettre là-dedans. Autre nouvelle intéressante qui est un peu plus terre-à-terre, Ford va encore rappeler 3 millions de véhicules.
Oh, beaucoup quand même.
Alors, devinez pourquoi? Encore les Moses de coussins gonflables Takata.
Ah!
Écoute, c'est une saga sans fin, cette histoire-là. En fait, c'est que bon, le rappel est connu, mais on avait signé une pétition pour s'opposer à changer les coussins gonflables du côté de chez Ford parce qu'on disait, bon, c'est pas vraiment nécessaire. C'est des modèles 2006 à 2012. Là, on parle pas de modèles récents.
C'est la même histoire qu'il y a quelques semaines, non? C'était la fin d'un long litige.
C'est la fin d'un long litige, mais là, ils devront les rappeler.
Okay.
La décision est tombée. C'est 3 millions de véhicules qui concernent, bon, entre autres, Ford Ranger, Fusion, Edge, Lincoln, Zephyr, MKZ, Lincoln, MKX. Puis il y a même 5800 véhicules Mazda des séries B qui sont l'équivalent du Ford Ranger, donc on a mis les mêmes coussins dedans. Évidemment, ça va coûter des sous à Ford, c'est pas une affaire qui est gratuite. Mais écoute, on est rendu dans le monde entier à 100 millions de coussins gonflables qui ont été changés, réinstallés dans 19 grands constructeurs automobiles. Puis on dit qu'il y a encore 17 millions de modèles qui ont des coussins gonflables Takata qui n'ont pas encore été rappelés.
17 millions.
Alors, on ne sait pas trop. Écoute, on va. Si l'émission est toujours là dans 10 ans, on va peut-être encore parler de rappel de Takata.
Espérons que ça sera fini.
Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très long.
Mm-hmm.
Donc, les gens, là, on va avoir. Ça a été, c'est tombé aujourd'hui, fait qu'on devra avoir des nouvelles de ça sous peu. Alors, c'est le premier bloc qui se termine. On prend une pause rapide, puis après ça, on va prendre un peu de temps pour vous parler de la nouvelle compagnie automobile qui s'appelle Stellantis.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
De retour à l'émission, je vous rappelle que le balado « Ça tient la route » peut être écouté en ligne sur vos plateformes d'écoute préférées, que ce soit Spotify, Apple, Google, et aussi sur le site du 98.5fm.ca. Vous allez dans la section « Balado ». Et on est là. Alors, vous cliquez. Chaque semaine, on met le balado en ligne le jeudi, en général. Et on peut nous écouter aussi en onde, autour de 17h, l'émission est au 98.5. On peut écouter toute l'émission là, chaque semaine aussi, évidemment, en compagnie d'Alain Mekena. Alain, on va parler un peu de Stellantis, parce que là, l'histoire, ça fait un peu plus d'un an que ça dure. Mm-hmm. Et là, finalement, c'est fait, là, c'est réglé.
C'est officiellement officiel.
Voilà.
Ouais.
Et Stellantis, c'est la nouvelle union entre FCA, Fiat Chrysler Automobile, et PSA, donc le groupe qui intègre, entre autres, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall. Donc, on a, en fait, 14 marques automobiles, quatrième constructeur en termes d'importance, troisième au niveau financier, je pense. En tout cas, il y a une nuance entre les deux.
Un des gros groupes, disons.
Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est pas compliqué, là. T'as Volks, t'as GM...
Toyota.
Non, attends un peu. Je l'ai lu. T'as Volks,
ouais.
Toyota, Nissan. Renault, Nissan, Mitsubishi.
Okay. Ouais, ouais, ouais.
Stellantis.
Oui, c'est vrai, parce que Mitsubishi ajoute quand même, veut pas, un certain volume.
Il ajoute du poids.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ben, ça veut dire un nouveau mariage, mais ça veut surtout dire que le mot Chrysler
n'est plus dans l'entité.
A été relégué littéralement pas aux oubliettes. Puis on va voir. Parce que là, évidemment, quand on vient de se marier, on a toujours de belles intentions, mm-hmm. on promet toujours qu'on sera en amour jusqu'à la fin de nos jours, et arrive un jour la dure réalité, et on est obligé de passer aux actes. Il faut connaître un peu Carlos Tavares. Carlos Tavares, c'est le grand patron mm-hmm. de cette nouvelle compagnie-là, qui était le grand patron de PSA, en fait, depuis 2014. Lui, quand il est arrivé chez PSA en 2014, on avait racheté de GM les marques Opel et Vauxhall qui étaient, bon, écoute, qui traînaient dans un coin depuis 15 ans. Puis personne s'en était occupé. Là.
Il y avait un petit peu la réputation d'un deuxième Carlos Ghosn à l'époque où Carlos Ghosn avait une bonne réputation, un redresseur.
Tu me voles
sauveur,
les mots de la bouche. C'est exactement mm-hmm. ça. En fait, lui, en 18 mois, faut le dire, là, ça faisait au moins 20 ans que et Opel et Vauxhall perdaient de l'argent.
Ouais,
puis
ouais.
lui, en 18 mois, là, il a non seulement redressé la compagnie, mais il a aussi mis à pied, en fait, non, 9000 retraites anticipées.
OK.
Ce n'est pas une mise à pied techniquement.
Ouais.
Il a aussi utilisé...
C'est pas une bonne nouvelle pour les gens
ben,
que ça
c'est
fait.
Ça. En fait, il y a eu des mises à la retraite anticipées. Il y a eu également des départs volontaires.
OK.
Donc, lui, là, c'est pas compliqué. Il a fait le ménage. Puis en 18 mois, les compagnies étaient redevenues rentables. Donc, il est capable de faire ça. Il sait comment le faire.
Ouais.
Là, ce qu'on dit en ce moment, c'est que l'union des deux compagnies va amener des économies de 6 milliards de dollars par année. On sait pas rien, là.
Mm-hmm.
Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des plateformes communes, parce qu'il y a des moteurs communs, parce qu'on va être capable de partager la technologie entre les deux entités.
Je pense que tu remplaces la transmission dans la plupart des véhicules Dodge et Chrysler par une transmission européenne, puis tu viens de régler au moins 3 milliards d'économies.
Ben, au départ. Puis évidemment, toutes les redondances au niveau des compagnies. Tu sais, on n'aura pas besoin de 14 bureaux de comptables, on n'aura pas
ouais.
besoin. Tu sais. Donc, il va y avoir à ce chapitre-là. Est-ce que ce sera suffisant? Pour le moment, on semble dire qu'on va s'organiser. Toutes les usines aussi. Puis là, il va falloir organiser les compagnies mm-hmm. et les marques pour ne pas se piler sur les pieds.
Moi, c'est ma grosse question parce que ça fait longtemps, et même à l'époque de Sergio Marchionne ou à la tête de Fiat Chrysler,
ouais.
on se demandait quelles marques vraiment ont de la valeur au sein du groupe. Puis Chrysler et Dodge, on n'était pas tellement sûrs, mais on regardait Jeep comme le joyau de la couronne, puis le reste, bof. Est-ce qu'on va voir des marques disparaître?
Voilà. En fait, il y avait un très bon papier. En fait, il y avait plusieurs papiers cette semaine dans les grands journaux, grands médias spécialisés. Mm-hmm. Automotive News a été un des premiers à le faire. Detroit Free Press en a fait un aussi. En fait, ce qu'on dit, c'est que oui, il y a des faiblesses. Bon, on nomme Chrysler, c'est un des candidats à se voir probablement disparaître. Pourquoi? Ben, il n'y a plus rien chez Chrysler. Tu sais, quand on regarde ce qui reste, il reste un Pacifica. Chrysler 300, on s'entend que le modèle est passé dû depuis 10 ans pour être changé,
c'est
ça n'a jamais été
frais.
Fait.
Mm-hmm.
Est-ce que des compagnies, tu sais, on regarde toutes les compagnies italiennes, là, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, ils ont besoin d'un profond ménage, mm-hmm. parce que les usines tournent à 20-30%. Fiat, c'est moribond au Canada. Il n'y a plus rien qui se vend chez Fiat. Ça va un peu mieux en Europe, mais on est probablement, au moment où on se parle, à regarder. Il y a des marques fortes. Jeep, Ram, ça va rester.
Ouais,
ça se vend. Jeep a une réputation internationale. Donc, ça, j'ai pas de problème. Même Peugeot est remis en question. Parce que Carlos Tavares, mm-hmm. quand il est arrivé en 2014, il a sérieusement, on l'a vu, là, Peugeot a essayé de s'associer avec d'autres. Pourquoi? Pour renforcer la marque. Parce que par elle-même, Peugeot vivote depuis un bon bout de temps.
C'est drôle parce qu'à chaque salon de l'auto, ben, il y en a pas eu cette année, là, mais à chaque salon de l'auto de Montréal, il y avait toujours un représentant d'un groupe de vente quelconque québécois qui disait Peugeot, là, ça s'en revient au Canada.
Oh, oui, non. Non, et puis ça.
C'est quand même ironique.
Puis ça, c'est bon que t'en parles parce que ça me surprendrait beaucoup. D'abord, les changements qu'on va voir vont être plus évidents du côté de l'Europe. Moi, je pense qu'ici, les marques qui sont fortes vont rester. On va continuer à avoir des produits Jeep, continuer à avoir des produits Ram. Je suis pas sûr combien de temps. Dodge, peut-être un peu. Mais là, c'est parce que arrive tout ce qui s'appelle voiture électrique, mm-hmm. hybride branchable, où il va falloir rapidement se mettre au pas. Parce que là, on le voit, là, on parlait de GM tantôt, là, qui investissent milliards par-dessus milliards par-dessus milliards.
Ouais, le virage est amorcé.
Ford est amorcé. Elle aussi, Ford a fait des grands pas en avant. Ils ont des modèles 100% électriques, le Mach-E. Ouais.
On va se le dire, c'est un compte à rebours qui est amorcé sur 15 ans. Parce qu'en 2035-2040, à peu près toutes les grandes économies dans le monde vont interdire la vente de moteurs à essence.
Bon, d'une part, puis d'autre part, comme la course FCA est encore dans les plots de départ, puis il était pas parti. Là.
Ben, ils avaient des bonnes idées, là, parce que hybride branchable, c'était pas un mauvais coup, mais c'est sûr que là, ils ont pris du retard.
On a vu des modèles comme le Portal, qui était au CES concept, il y a quelques années, le concept, tu dis, OK, il pourrait faire ça, mais c'est parce qu'il va falloir qu'il arrive avec des produits 100% électriques.
Faut exécuter.
Du côté de PSA, on a déjà des produits de ce côté-là. Bon, est-ce qu'on va les amener du côté de Jeep? Est-ce qu'on va dire, bon, ben, Dodge va devenir une compagnie qui va vendre des véhicules électriques? On doit être on va prendre ces décisions-là, on va les amener quelque part, puis là, à partir de là, on va décider de dire, OK, là, on a défini que telle et telle compagnie, et j'ai bien hâte de voir ça.
Moi, je pense qu'une réponse, c'est pour avoir la réponse, c'est de demander aux gens 35 ans et moins dans le groupe de marques du groupe, lesquels vous connaissez.
Où on s'identifie.
Pis si le passif est trop pesant pour des marques comme Chrysler, Dodge, tout ça, tu sais, Hyundai, ils font une nouvelle marque pour leur voiture électrique.
Voilà, exact.
Tesla est une nouvelle marque qui n'existait pas dans l'industrie. Je pense que Stellantis, c'est une nouvelle marque qui clairement fait le balai, fait le ménage sur les marques connues du groupe. Donc, peut-être qu'il y aura des nouvelles marques qui vont arriver pour consolider d'anciennes marques qui n'ont plus la cote, finalement.
Exactement. Puis, j'ai hâte de voir parce que, je dirais, dans les 30 dernières années, tu sais, moi, j'ai assisté au mariage de Daimler Chrysler à Détroit, mm-hmm. où on avait officiellement...
On se rappelle tous de Dieter Zetsche et de sa fameuse moustache.
Oui, qui nous servait des hot dogs ou...
et de la grosse bière dans des bocs froids.
l'autre bord du salon de l'auto de Détroit, au Fire...
C'était une ancienne caserne transformée, au Firehouse Tavern, je sais pas quoi. Là.
Disons, revendiqué ou emprunté le temps du salon par le groupe Daimler Chrysler.
Ça, dans les belles années.
Et on l'a vu là chaque année, puis il venait nous jaser. Mais en fait, moi, j'ai parlé à l'époque à l'interne à des gens chez Chrysler, puis les gens me disaient, écoute, c'est pas une fusion, là. C'est Daimler qui mène.
Ouais, c'est une reprise,
les décisions sont prises à Stuttgart, puis on n'a pas grand-chose à dire. Je tairai le nom de la personne en question.
Mais ça n'a pas bien marché non plus, Daimler.
Ben non, c'est pour ça que ça n'a pas bien marché. En fait, il y avait cette attitude-là où Daimler était la partie prenante dans la compagnie. Puis l'autre, c'est le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes communes possibles. On était loin. Tu sais, Chrysler était une compagnie abordable alors que Daimler était une compagnie d'élite.
De luxe, ouais.
On a vu depuis ce temps-là, là maintenant, c'est moins vrai parce qu'il y a des produits Mercedes qui sont tout aussi abordables que des produits de génériques de grands constructeurs. Mm-hmm. Mais à cette époque-là, on était encore assez haut. Et évidemment, il y a eu la prise en main de Fiat, qui est une histoire, je dirais, presque rocambolesque, parce qu'une compagnie sans argent a acheté une autre compagnie qui en avait encore moins qu'elle.
La mauvaise langue pourrait dire qu'un moins et un moins ne font pas nécessairement un plus. Là, c'est un peu ça qui est arrivé.
Mais Fiat a quand même réussi tout un coup en faisant ça, parce qu'on s'est ouvert le marché, on a littéralement sorti Chrysler du trou. Et ironiquement, dans les années qui ont suivi, les ventes ont repris du côté de chez Chrysler et elles ont chuté du côté de chez Fiat. Et c'est les profits générés par Chrysler qui s'est fait racheter, qui réussissait à faire vivre Fiat. Alors, et là, ben, on cherchait depuis quelques années, puis c'est drôle parce que Sergio Marchionne, il y a déjà plus de 10 ans, c'est en 2008, je pense, l'année où il était venu à Montréal, il avait dit que les compagnies qui vont survivre à l'horizon 2020, il y il y a 12 ans, seront les compagnies qui seront capables de vendre plus de 10 millions de véhicules par année. Puis si on regarde Stellantis, on est à 8,5, 8,6. Et cette tendance-là à se réunir, c'est une tendance lourde dans le marché. Là. T'sais, on parlait tantôt de Honda qui travaille avec GM pour des piles électriques. Ouais. Mazda en électrique travaille avec Toyota. Les compagnies qui n'ont pas les fonds pour avancer, ben vont s'unir avec d'autres pour réussir à survivre.
Ben, l'industrie automobile, c'est 100 ans d'histoire de consolidation, si on résume grossièrement.
Voilà, on est prêt de voir le monde automobile qui va probablement être séparé entre une quinzaine de compagnies à moyen terme, parce que c'est eux qui auront les moyens, avec la technologie, les investissements et le marché, de survivre. Autre problème que devra adresser Stellantis, c'est la Chine.
Oui.
Parce que la Chine est en ce moment le plus gros marché automobile de la planète. Et ni FCA, ni PSA n'ont une présence digne de ce nom du côté de la Chine, alors que les GM, Toyota, Volkswagen ont une très forte présence du côté de la Chine.
Ont des partenaires solides en Chine.
Voilà. Ouais. Alors ça va être probablement un des premiers dossiers de Carlos Tavares. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un potentiel qui est là. Et on a nommé Carlos Tavares parce que lui a réussi à mettre PSA sur les rails en très peu de temps. Et c'est la tâche qui l'attend, parce que là, ça va, tu le sais, Alain, dans le monde automobile, extrêmement vite.
Oui.
Et on
ça
peut
va vite,
pas...
et en même temps, ça va pas vite, parce qu'une génération de produits, c'est 5 ans.
Oui.
Puis il faut qu'il se revire en dedans de 5 ans.
Eh ben, d'une part, puis d'autre part, c'est qu'il faut être à la fois, il faudra qu'il soit capable à la fois de planifier de la stratégie et d'être capable de ramener rapidement la compagnie au seuil de la compétitivité, ce qui est pas le cas en ce moment pour bien des marques. Alors, il y a une double tâche là à remplir et ça sera le gros défi. Alors, je voulais le souligner ce matin, mais ça va être un sujet qui va revenir assez fréquemment dans l'émission, parce que ça va être un dossier important dans notre monde.
Il faut s'attendre à ce qu'au moins une marque du groupe qui sont présentes en Amérique du Nord disparaisse.
Moi, je m'attends plus que ça. Moi, je pense que de 14, on va passer entre 10 et 12.
Il y a des marques, c'est des véhicules commerciaux, puis des pièces d'après-marché, des choses comme
puis,
ça.
Puis il y a des marques qu'on, je pense que par des promesses, Fiat entre autres, là, pour le nommer, quand Fiat, John Elkum, qui est l'arrière-petit-fils de la famille Agnelli, qui est encore partie prenante chez Fiat, on avait promis de garder les usines en Italie, de garder le marché, mais on s'entend, là, on est sur un ressuscitateur depuis des années,
oui.
Et l'oxygène diminue à chaque année, puis... En tout cas, je ne suis pas Carlos Tavares, mais moi, il y aurait un ménage assez rapide qui se ferait là-dedans. Alors, c'est le temps de passer à une deuxième pause et on va parler après de nos essais.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
Alors, on vous disait en début d'émission que on avait deux essais routiers. En fait, techniquement, on en a trois.
Ouais.
Parce que Alain t'a essayé deux produits BMW qui en fait se ressemblent, c'est juste l'enrobage qui est un peu différent. On peut-tu le dire comme ça?
C'est bien dit. Dans un autre univers, ce serait la berline et sa version familiale, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'il s'agit du BMW X3.
Tu peux pas dire le mot familial aux États-Unis. Ouais. Ah, c'est un tabou.
Même ici, station wagon, on l'entend plus comme on l'entendait avant.
Non. Mais c'est ça. C'est une familiale moderne. C'est un peu ça qu'on peut dire, là.
Oui. Ah oui, absolument. Le X3, c'est un petit VUS, mais les VUS sont c'est le monospace nord-américain. On peut plus dire mini-fourgonnette non plus.
Non.
Parce que c'est rendu des VUS. C'est le Pathfinder chez Nissan, on s'entend que c'est une fourgonnette qui a pas mal.
Oh, tout
sauf les portes
coulissantes.
Oui. Donc, dans ce cas-ci, excuse-moi, je reviens à ça. BMW X3 X-Drive 30E. Donc, c'est la version à quatre roues motrices du X3 qui en version hybride branchable, c'est un peu long à dire. Et la 330E, qui est la version hybride branchable de la série 3, la berline. Deux nouveautés hybrides branchables que BMW a mises en marché ces derniers mois. Pour ceux qui se le demandent, la marque allemande se vante d'être celle qui propose le plus grand nombre de véhicules électrifiés en tout ou en partie à l'heure actuelle. Yeah. Ah ouais, tu sais, BMW font ça, on le savait pas. Ah ouais, effectivement, ah ouais. Ils le font, puis quand on regarde, c'est pas faux. Est-ce qu'ils font des bons véhicules électrifiés, tu sais, des véhicules électriques qu'on a le goût d'acheter.
Voilà.
Qui sont de dernier cri en termes de technologie, ça, effectivement, c'est une autre histoire. Mais pour, tu sais, redorer un peu le blason, on peut dire, ils ont quand même la BMW i3, qui est pas mauvaise, et la Mini Cooper SE, qui... en principe, devrait être très séduisant.
Voilà, ils ont deux véhicules électriques. Et là, évidemment, la famille I va s'agrandir.
Le iX s'en vient.
iX s'en vient.
Imminente. Je pensais que c'était le iX4, le i4, mais c'est le iX tout court. On finit par s'entendre ça. Puis effectivement, ça va être quelque chose d'intéressant. Mais entre-temps, les deux nouveautés les plus accessibles, disons, sont le 330e et la et le X330. Hey, ça fait beaucoup de 3, ça. Si vous
pensez une seconde. C'est un exercice de diction.
Bref, dans les deux cas, même groupe propulseur, un 4 cylindres turbo de 2 litres qui fait 181 chevaux et jumelé à un petit moteur électrique, somme toute, de 113 chevaux. Au total, ça fait 288 chevaux à son apex, comme on dit.
Exact,
Et surtout, le couple combiné est de 310 livres-pieds, ce qui n'est pas mauvais du tout.
Non.
Je l'ai un peu dit tantôt, on trouve une version à roue motrice à l'arrière et une version X-Drive qui, elle, est à rouage intégral. Dans les deux cas, si vous vous demandez combien ça coûte électrifier ces véhicules-là, c'est environ 8 000 $ par rapport au modèle de base. La 330e commence à 45 000 $ en version à deux roues motrices, 54 000 à quatre roues motrices, et dans le cas du X3, ça part à 60 000 $ pour la version hybride branchable. Écoute, 8 000 $ de plus pour électrifier, est-ce que ça vaut la peine? Il faut faire le calcul.
Ouais.
Parce que dans les deux cas, le groupe électrique est bon pour une autonomie qui n'est peut-être pas super à l'heure actuelle, d'environ 24 km avant que la cylindrée embarque.
Exact.
Dans le monde, j'aurais le goût de dire temporaire des hybrides branchables, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Puis moi aussi, j'ai eu les modèles à l'essai. Puis l'hiver, on n'est pas à 24, on était à 18.
Voilà,
17.
Voilà, toujours à 25 % à peu près, 25 à
30 %. C'est le temps de faire aller des commissions au village voisin, puis t'es déjà à sec, là.
Exactement. Donc, ça va dépendre évidemment de vos habitudes de conduite, mais dans les deux cas, pour l'avoir essayé sur des courtes distances, moyennes distances, longues distances, dans un contexte de banlieue, même de chalut jusqu'à Charlevoix, tout ça, la consommation moyenne, dans les deux cas, était entre 4 et 5 litres au 100 km.
Exact.
Écoute, c'est correct. C'est même très bon pour des véhicules dans ce genre-là, mais quand on compare des hybrides branchables comparables dans d'autres marques, un peu en termes de format et de prix, ceux-là font probablement 40, 50, 60 km électriques seulement et vont réduire la consommation moyenne dans un essai comparable pour moi là, à 2 litres et pas tout à fait 3 litres au 100 km, ce qui est à peu près la moitié moins dans le fond.
Exact. Et il faut comprendre pourquoi on a 24 km électriques et pourquoi on n'a pas plus.
Je t'écoute.
Parce qu'il y a une loi en Californie qui existe,
qui met le minimum.
Qui est en vigueur, où le minimum... En fait, c'est pas compliqué. Si tu es un constructeur automobile et que tu veux vendre des voitures dans l'État de la Californie...
Ça prend au moins un modèle.
Ça prend un modèle qui est capable de faire un minimum de... Enfin, je le traduis, mais c'est 20 km.
Mm-hmm. C'est quoi? C'est pas 15 000, c'est 12 000?
Je pense que c'est 12 000. Mm-hmm. En tout cas, ou 15 000, mais c'est 20 km. Alors, les constructeurs, pour se conformer à la loi, ont fait des véhicules qui remplissent le minimum requis.
Le minimum légal.
Mais c'est sûr que dans une utilisation de tous les jours... Moi, je trouve que c'est cher payé pour avoir si peu d'autonomie.
Voilà. Cela dit, tu sais, je veux dire, là, je compare 2 litres au 100 avec 4 litres au 100 en moyenne, ce qui est quand même, dans les deux cas, pas mauvais quand on considère que le véhicule moyen de ce format-là va faire
à peu près 10
litres au 100.
Mais t'as quand même du simple au double.
Mais ça fait effectivement une différence. Ouais. Surtout que, tu sais, à 60 000 $ il y a du choix, là. Je veux dire, on peut
attends,
trouver quelque
60
chose de
60 000, bien, là, on commence à avoir beaucoup de choix à 60 000.
Ouais, puis honnêtement, c'est un peu dommage parce que... les véhicules BMW actuels, 2020-2021, à part que moi, je les trouve vraiment affreux de l'extérieur parce que c'est donc compliqué le design d'une BMW, à l'intérieur, c'est des véhicules vraiment très réussis. T'sais, c'est confortable, c'est hyper silencieux, surtout là, en plus, il y a moins de moteurs.
Ceux qui aiment la techno,
la techno
vous
est
êtes
là.
Très bien servi.
On le dit, je le dis à chaque fois que j'en vois un parce que je trouve ça tellement le fun, CarPlay et Android Auto sans fil.
Oui.
Donc, on jumelle son téléphone par Bluetooth et automatiquement...
Tout est là.
On n'a pas besoin de brancher rien nulle part et ça fonctionne très bien. Et ça évite d'avoir les gens qui ont le stress de regarder leur téléphone aux deux minutes. Là. Ça l'évacue, ça. Le X3, je suis allé faire du ski avec la famille. On a réussi à rentrer tout le stock dans le coffre malgré tout.
Ouais.
Des skis, des planches, des bottes, des bâtons.
Avec deux enfants.
Avec trois enfants.
Avec trois enfants.
Oui, ce qui est quand même pas rien. Donc, logeable, tu sais, sérieusement, sur papier, à part le fait que le groupe électrique est un peu modeste, c'est deux véhicules qui étaient attrayants à leur façon. On s'entend que BMW, on va
donc,
pas payer...
Donc, autrement dit, payer moins cher et acheter le pas hybride.
Ça revient un peu à ça. Peut-être à dire, hein? Mais assurez-vous de la revendre avant 2030 parce qu'ils vont perdre toute leur valeur quand on va parler de voitures électriques.
C'est clair. Puis même 2030, je te sens généreux. Là. Moi, je pense qu'en 2025, ça va déjà avoir perdu beaucoup de sa superbe.
Oui.
Mais c'est un peu... Puis surtout, tu le dis, il y a d'autres compagnies qui vont vendre des hybrides branchables avec une vraie autonomie. Là. Tu sais, tu regardes, bon, je sais qu'on est pas en même place, mais un RAV4 Prime...
Ben, ça met la barre... Bon, tu sais que c'est là
à 67 kilomètres. Hey, là,
Volvo
tu vas
quelque
part.
Quelque chose de très bien.
Ben
puis,
oui,
il y a d'autres marques de luxe.
Là, tu es capable de rendre où tu vas aller, ou en tout cas, en faire un bon bout. Puis c'est pour ça que tu es à 2 litres au 100. Parce que en ayant plus d'autonomie électrique, ben ta moyenne diminue.
Exact. Donc, ça, c'est une moyenne. Donc, il y a possibilité de faire... Tu sais, sur 60 km électriques, tu peux faire beaucoup d'aller-retour sans jamais utiliser
oui,
le moteur à essence.
Mais 24, c'est juste pas assez long. Alors, oui, c'est intéressant, mais pas vraiment dans
exactement.
Le modèle hybride branchable.
Et pour les indécrottables fans de BMW, car il y en a, et puis c'est correct, si vous voulez absolument acheter un BMW électrique, peut-être qu'il va être plus sage d'attendre le iX.
Oui.
Ou le iNEX, ou le i4, ou en tout cas, un des... Parce que là, ils en ont un paquet qui s'en viennent d'ici deux ans, 2022-2023, qui vont être plus modernes en termes de mécanique, mais qui sont aussi autrement plus... en tout cas, il y a plus de design, là. Fait,
je pense que la patience des gens dans tout ce qui concerne l'électrification des modèles va être récompensée dans les prochaines années, là, parce que... Ah, écoute, il y a pas une semaine qui passe sans qu'on nous annonce des nouveaux modèles là, il y en arrive à pleine porte. Alors
ça va suivre. Puis
les gens qui se disent "Ah, je le garde-tu encore un an ou deux ?" Gardez les dons encore un an ou deux, puis vous allez voir que le choix que vous allez avoir à faire va être d'autres emplois intéressants.
Ouais, non,
effectivement.
Je sais, ça fait quand même à peu près 10 ans qu'on dit "Attendez, ça s'en vient."
Là. Oui, mais là
c'est
vrai.
On approche de la fin. Là. On approche du début de la fin, ou autre, dites ça comme vous voulez, ou de la fin.
Votre attente sera récompensé.
C'est imminent, donc patientez. Dans ce cas-ci, c'est des véhicules qui, effectivement, sont neufs et sont déjà fatigués. Donc, allez,
bon, moi, j'étais complètement ailleurs. J'étais dans le champ au sens propre du terme.
Au sens positif du terme, excuse-moi.
Dans le sens positif du terme, en fait, on a ramené le Land Rover Defender. Les gens disent, on a-tu déjà eu ça au Canada? Brièvement, dans les années 90, je pense que c'est 95-16, il y a eu deux années où on en a eu un petit peu.
Juste pour ma mémoire, ça c'est le véhicule que la porte arrière, c'est un haillon, un tiers.
Ça rouvre comme un réfrigérateur.
Exactement.
Oui, c'est
exactement.
Ça. Non, c'est l'image que j'ai. Là. Mm-hmm. Mais là, à rouvre, c'est une porte pleine.
Okay.
Mais l'ancien modèle, en fait, les gens associent ça beaucoup... aux expéditions en Afrique, au safari, là, c'est soit un Land Cruiser, soit un Land Rover Defender. Et le Defender avait quitté officiellement l'Europe depuis 2016. Donc, on a droit à une toute nouvelle génération. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a conservé le côté déjanté du modèle.
Il est-tu beau? Est-ce qu'on peut dire qu'il est beau?
Il est différent.
Parce qu'il est assez spécial.
Il est assez spécial. Bon, moi, j'avais le modèle 110 SE, parce qu'il y a un modèle 2 portes, le 90. Il y a un modèle 110 qui est le 4 portes. Et moi, j'avais le SE avec le groupe Explorateur. Ah, là, vous allez me dire, c'est quoi ça, le groupe Explorateur?
Ça sonne comme un chapeau
vous
et
avez,
des lunettes.
Le groupe Explorateur, vous avez un... Excusez-moi le terme anglais, un snorkel.
Un tuba,
en fait, qui respire.
C'est la prise d'air en hauteur.
Okay. Et ce n'est pas pour aller dans l'eau, mais c'est un... Exemple, vous roulez dans le désert où il y a de la poussière, du sable, ça va souvent aller encrasser le moteur, puis demander à tous les gens qui ont fait le Dakar, on arrête souvent parce que il y a du sable plein le moteur. Bon, mais lui prend son air plus haut, parce que vous êtes au-dessus de la porte, et l'air qui rentre au moteur est propre.
Ça respire mieux en hauteur.
Ça respire mieux. Mm-hmm. Ça, c'est un des éléments. Vous avez aussi un rail de toit, littéralement une plateforme.
Un porte-bagages.
Ça peut porter 132 kilos. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, installer une tente. Bon.
Les fameuses tentes de toit, oui, il y en a
les
beaucoup.
Les fameuses tentes de toit.
Oui,
ça,
oui, oui.
Bon, 132 kilos, on s'entend, c'est pas pour une famille de 4. Là.
T'embarques deux.
Mais... Ouais, deux pas trop gros. moi, il y aura personne d'autre avec moi.
Bon,
on s'entend.
Tu pourras ronfler.
Mais, c'est ça. Mais ça peut être fait pour ça. Il y a une espèce de rangement extérieur qui se verrouille à l'extérieur. Et la roue en arrière, la roue de secours est dans la porte, en fait, extérieure, puis elle est couverte. Donc, okay. il y a une enveloppe pour justement protéger la roue contre toutes sortes d'affaires. Donc, ça c'est 6 000 $.
Il faut explorer longtemps pour...
Voilà, ça vaille la peine, alors, oui. C'est pas gratuit, mais ça donne un style très particulier à la voiture. Ça la rend, je dirais, assez intéressante. Vous avez une hybridation légère, là, ça s'en vient la mode chez plusieurs constructeurs. C'est un moteur 3 litres V6 turbo qui fait 395 chevaux et 406 livres-pieds de couple.
Donc, quand même.
La puissance est là, mais vous avez 2365 kilos. Donc, c'est pas léger, un Land Rover. Et même s'il y a de l'aluminium dans la construction, parce que c'est un véhicule qui peut aller n'importe où avec les quatre roues motrices. Les renforts, puis tout ça c'est en acier, parce que c'est ça qui résiste. Alors, évidemment, ça ajoute du poids.
Oui, parce qu'il est fait pour aller dans le champ, on le disait, dans le bois, où il est fait pour sortir...
C'est le roi de la montagne. Exactement. C'est pas compliqué, là. Imaginez un endroit où ça vous tente d'aller, vous pouvez probablement y aller. Il y a une quantité d'ajustements en mode quatre roues motrices qui sont assez impressionnants. Moi, je l'ai roulé dans la neige, parce que ça fait quelques semaines à peine, et regarde, zéro problème, là. Ce que j'aime aussi, c'est que de l'intérieur, on a gardé le côté un peu déjanté. Les gens qui ont déjà pris les anciens Defender savent à quel point c'était différent. Mm-hmm. Vous avez une espèce d'îlot flottant où on peut installer des choses avec porte-bagages. L'écran est bien installé, facile à utiliser. On a rendu ça élégant sans tomber dans l'opulence, parce que faut bien se rappeler, là, même un Range Rover, c'était littéralement un tracteur de ferme en oblie là, à ses débuts. Là.
C'était, ça se veut pas une
marque
de luxe.
C'était du vinyle, c'était hyper simple. Et le Defender suivait dans les mêmes traces. Et là, on n'a pas voulu aller dans l'opulence, mais on a réussi à rendre ça chic, en restant simple. Alors ça, je pense que de ce côté-là,
est-ce que ça donne un véhicule qui va s'acheter dans, tu sais, à ma ville Mont-Royal où il n'y a aucune montagne à l'horizon, ou est-ce que ça reste un véhicule qui va être très populaire pour les gens qui aiment leur piste?
Oui, mais non. Tu sais, c'est vraiment dédié. Et je pense que la plus grande amélioration, c'est justement, tu parles de Ville-Mont-Royal, sur la route. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, dans le cadre des tournages qu'on a fait aux Légendes de la route, on avait été essayer des anciens Defender.
OK. Oh, ça devait être... Oui, mais ça,
sur la route,
chose,
sur la route. Écoute, tu corrigeais sur le droit. Là. Ça va pas de bon sens. C'était un peu comme les vieux J-Wagon.
Ils gardaient le comportement en route, mais...
Oui, mais c'est ça. Sauf que... Le nouveau Defender est extrêmement confortable. Évidemment, il se moque littéralement de l'état des routes, là. Oui, vous allez entendre un petit boom, un petit cognement, mais c'est solide, solide, solide. Bon, ça coûte combien tout ça? Ouais, il y a ça aussi. Mais tu sais, c'est un Defender. Le modèle avec les options que j'avais, le 110 SE avec le groupe Explorateur, c'est 92 000 $ avant les taxes de transport et la préparation.
Quand même.
Mais à ce prix, vous avez un véhicule unique. Vous risquez même pas d'avoir un voisin proche qui va en avoir un. C'est un véhicule différent. Ça va vraiment partout. La tenue de route est devenue très bonne. La présentation est sobre, je le disais, mais élégante. Le prix est salé, le format est imposant, mais si vous voulez être un peu différent de votre voisinage, c'est un bon modèle. On entend la musique, c'est déjà la fin de l'émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler de Porsche, entre autres. Je vais en voir en essai routier.
Porsche électrique.
Porsche électrique, puis je vais en voir en essai routier, le nouveau qui a fait le Kia Sportage 2021.
On va voir ça.
Salut tout le monde!
C'est 23.